Au début des années 2020, une maladie non diagnostiquée faisait apparemment son apparition au Nouveau-Brunswick et plus particulièrement au niveau de la péninsule acadienne en particulier. En 2021, le docteur Marrero avait identifié un groupe de 48 patients qui auraient été atteints de ce syndrome neurologique qui est inconnu. Une étude menée par la suite en 2022 avait conclu que ce syndrome neurologique non diagnostiqué était inconnu. Et pourtant, en 2023, le docteur Marrero a de nouveau amener ses préoccupations au centre de la discussion avec d'autres médecins du Nouveau-Brunswick, ce qui a conduit à des recherches par le médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dr Yves Léger, qui présente les conclusions d'un rapport qui a eu lieu toute cette année 2025 avec des recherches plus poussées. On l'écoute, lui et ses traducteurs.
Cette enquête a commencé en 2023 lorsqu'un médecin est entré en contact avec nous pour partager plusieurs des préoccupations avec ses patients. Ce sont des patients qui avaient des maladies neurologiques qui touchaient leur système nerveux, mais le médecin a aussi signalé d'avoir des résultats de tests qui démontraient des niveaux élevés de certaines substances environnementales, plus précisément des herbicides qui sont des produits pour contrôler les différents arbustes et des métaux. Il est entré en contact avec la Santé Canada et pour de l'aide. Et jusqu'en 2025, en mars de 2025, on a fait la collecte d'informations sur 222 patients et nous pensions que c'était un échantillon suffisamment important pour analyser les données. L'analyse initiale a été complétée au mois de mai et on a publié ce rapport en janvier. L'objectif principal dans cette enquête est de mieux comprendre les préoccupations qui ont été présentées par le médecin concernant des substances environnementales. Nous voulions savoir si les résultats étaient fiables ou pas, s'ils étaient plus élevés que ce à quoi on pourrait s'attendre de trouver et s'ils étaient plus élevés, de voir s'il y avait des preuves qui pourraient démontrer que cela contribuait à leur maladie neurologique. Plus précisément, les herbicides qui nous préoccupaient, le glyphosate et le glyphosinate. Pour les métaux, il y en avait 9, l'aluminium, l'arsenic, cadmium, chromium, le cuivre, le plomb, le manganèse, le mercure et le vanadium.
Décider d'ajouter 2 objectifs secondaires à notre travail, puisque les patients avaient été rapportés à la santé publique comme ayant une maladie neurologique non diagnostiquée, on a décidé d'examiner d'autres sources de données pour voir si les diagnostics potentiels pouvaient être identifiés pour ces patients. On voulait aussi vérifier si d'autres neurologues avaient été impliqués et avaient évalué ces patients-là.
Avant de compléter notre analyse de ces données, on devait aussi compléter d'autres étapes importantes. On devait revoir tous les études scientifiques pour mieux comprendre certaines choses, comment on pourrait être exposé à ces substances, si ces substances avaient le potentiel d'entraîner des effets neurologiques et quels étaient les meilleurs échantillons à tester pour avoir les meilleurs résultats fiables. Il y a plusieurs spécimens qu'on peut tester au sein des humains pour voir les niveaux de substances tels que les cheveux, les ongles, l'urine, le sang, mais ils ne nous démontrent pas tous les mêmes informations. C'est en fonction de la substance. C'était important de nous assurer qu'on savait quel type de spécimens étaient les échantillons étaient le plus utile pour chaque substance pour qu'on puisse interpréter les résultats les plus fiables possibles. On a fait aussi beaucoup de travail de contexte avec plusieurs laboratoires qui ont aidé dans le test de ces paramètres. On voulait savoir si ces laboratoires étaient bien agréés et qu'il y a des corps externes qui revoient leurs pratiques et leur façon de faire. Et on voulait aussi savoir comment les laboratoires déterminaient leurs plages de référence, les plages de référence hauts et faibles signalaient avec les résultats des patients. Ce sont des valeurs essentielles pour déterminer si les valeurs sont anormales, élevées ou faibles. Pour atteindre cet objectif, on a adopté 3 différentes approches avec des buts précis. Le premier était de comparer les résultats de ces groupes avec les plages horaires des laboratoires, les plages de référence pour comprendre ces valeurs. Le deuxième était de comparer les résultats de ces patients à une population plus vaste, telle que les niveaux sont mesurés à la suite de l'enquête canadienne ou de les provinces de l'Atlantique. Ces comparaisons offrent les informations les plus utiles parce que cela permet de comparer les valeurs de ce groupe de patients avec un groupe plus large, alors que ces deux types d'analyses ne peuvent pas nous dire si les niveaux élevés ont entraîné des problèmes de santé. On a aussi revu la science pour voir s'il y avait des lignes directrices en valeur qui pourrait nous permettre de savoir si des valeurs élevées pourraient aussi entraîner des problèmes de santé.
On a examiné les résultats d'autopsie disponibles et l'information sur les consultations avec d'autres neurologues.
Il explique ensuite quels ont été les premiers résultats constatés par l'équipe du médecin hygiéniste en chef à propos de cette supposée maladie neurologique non diagnostiquée.
La constatation principale avec ce groupe de patients ne démontre pas que l'exposition a entraîné ces problèmes de santé. Lorsqu'on s'est penché sur les résultats des tests des herbicides, on a trouvé que 95% des résultats étaient dans les niveaux normaux ou ceux à quoi l'on s'attendait. Lorsqu'on a comparé ces niveaux avec ce groupe de patients, avec les niveaux qu'on pourrait s'attendre avec un groupe de Canadiens de l'Atlantique, étaient très semblables. On s'est penché sur les constatations avec les métaux testés. Les patients avaient des niveaux élevés, mais la grande majorité des tests qui ont été faits, 93%, étaient dans les niveaux normaux. Lorsque comparé avec les plages de référence, lorsqu'on a comparé avec ce groupe de patients, avec la population canadienne, certains étaient plus élevés ou les mêmes ou un peu plus faibles, avec certaines qui étaient un peu plus élevées. Malheureusement, on n'a pas pu trouver des valeurs de référence avec notre vue des études. Lorsqu'on comparait avec la population canadienne, avec les taux élevés, on pouvait tout simplement le trouver pour les valeurs de l'aluminium. Nos comparaisons avec les résultats des patients ont démontré que certains des patients avaient des résultats qui étaient plus élevés que cette valeur. Et malheureusement, aucun d'entre eux n'a eu des tests répétés pour confirmer ces résultats, sauf un. On a fait face à beaucoup de grandes limitations lorsqu'il s'agit de compléter ce travail. Certaines de ces limitations étaient concernant les pratiques des tests de laboratoire. D'autres limitations étaient concernant les données des patients qui étaient disponibles pour nous. Pas tous les échantillons qui ont été testés étaient considérés en étant les plus appropriés en fonction de notre étude de la littérature scientifique. Et certains des résultats plus élevés ont été testés une ou plusieurs fois. C'est considéré en étant la pratique exemplaire et une étape importante pour assurer et confirmer que ces résultats sont confirmés à un niveau élevé. Ce sont tous des problèmes importants qui ont touché notre capacité de comprendre ces résultats élevés. Nous avons fait face à de grandes limitations qui ont touché notre capacité d'offrir des réponses définitives.
Mais malgré ça, on est capable de conclure que notre enquête ne démontre pas de preuve d'un problème généralisé parmi ce groupe de patients. On ne pense pas que l'exposition à ces substances soit un facteur contribuant à la maladie chez la majorité de ces patients. Parmi les 9 patients décédés chez qui on a pu obtenir des rapports d'autopsie, des conditions connues ont tous été identifiées comme la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lewy, la maladie de CJD, Creutzfeldt-Jakob et autres. Les rapports n'indiquaient pas de trouvailles inhabituelles. 60% des patients avaient été vus à un moment donné par un autre neurologue, mais on ne peut pas confirmer si c'était pour le même problème. Pendant ce travail, aucun autre neurologue nous a signalé des inquiétudes ou des préoccupations pour ces patients-là ou pour d'autres.
Et pour finir, après ces résultats qui montrent donc que cette supposée maladie neurologique non diagnostiquée ne vient pas d'un taux d'herbicide élevé ni d'un taux de métaux élevé chez les patients concernés, eh bien, le médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick encourage à prendre plusieurs mesures pour essayer de trouver la véritable cause de tout ça et pour essayer de mieux diagnostiquer les personnes qui pourraient en fait être diagnostiquées car ils seraient potentiellement atteints d'une maladie diagnosticable et le problème serait donc plutôt un problème de diagnostic. Hein. Voilà les conseils évoqués par le docteur Yves Légère.
En fonction de nos constatations, il y a 3 recommandations qui peuvent être groupées dans 3 catégories. Le premier groupe de recommandations est là pour appuyer les soins aux patients et un suivi pour améliorer les tests qui sont utilisés pour qu'on puisse avoir des résultats fiables pour améliorer les soins aux patients. Avec nos constatations, les tests qui ont démontré des niveaux élevés, on a demandé et recommandé qu'ils soient répétés. Ces résultats plus élevés devraient être faits au moins une autre fois ou plusieurs fois. Nous recommandons que les médecins utilisent les bons échantillons pour qu'on n'ait pas des résultats trompeurs. L'important sur les références, les plages de référence, et en fonction des entraîne une limitation. Les niveaux élevés ne veut pas dire qu'il y a plus d'exposition qui a lieu ou une préoccupation concernant la santé. La deuxième recommandation est là pour appuyer ces patients et d'autres dans un diagnostic. Je ne peux pas imaginer comment difficile que ça peut être de vivre avec une maladie, ne pas savoir la cause.
Vous avez été rapporté comme des patients avec une maladie non diagnostiquée, mais les évidences qui continuent de s'accumuler suggèrent qu'il est très probable que vous avez une maladie qui peut en fait être diagnostiquée.
Pour aider avec ce diagnostic, nous recommandons qu'il y ait un processus qui soit mis en place pour vous appuyer, pour que vous puissiez avoir une deuxième évaluation indépendante.
Nous voulons maintenant mettre l'effort pour aider les patients à obtenir le diagnostic et les soins nécessaires. Nous avons déjà commencé à travailler aux recommandations pour les deuxièmes évaluations. Nous avons eu des discussions avec les deux régions régionales qui devront assumer un rôle principal. Quand le processus sera en place, nous pourrons les communiquer le processus aux patients concernés.
Les patients, donc, à qui on l'a dit il y a quelques années qu'ils étaient certainement atteints de cette maladie neurologique non diagnostiquée, bénéficieront donc de plusieurs rendez-vous pour pouvoir peut-être trouver la réelle cause de leur maladie et de tous leurs problèmes. On leur souhaite en tout cas de trouver ces solutions. Et d'autres recherches sont en cours au niveau de l'Agence de la santé du Canada, donc à plus large échelle, sur les mêmes patients et avec les résultats pour mieux analyser quels sont les problèmes dans toutes ces recherches. C'était Loïc Gagnolet pour IGL à Saint-Jean.